L'émerveillement, source de sainteté. Bonjour Olivier et bonjour à tous les auditeurs de Radio Maria. Nous allons tout de suite prier notre Seigneur avec le diacre Martial Caudou et nous a laissé émerveiller.
Bonjour Christine et Bernard. Bien sûr, bonjour à vous toutes et à vous tous, auditrices et auditeurs de Radio Maria, frères et sœurs dans le monastère invisible de Saint Jean-Paul II. Voilà, nous allons tout de suite nous unir dans la prière, guidés par la main de Marie, signons-nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici devant toi, Seigneur, pour te louer, pour rendre grâce, pour bénir, adorer, réunis en ton saint nom, pour te prier, Dieu. Trinité d'amour. Ô Marie, Maman du ciel, merci de nous accompagner au fond de notre cœur, nous qui tous ensemble sommes sanctuaire du Seigneur, la Sainte Église dans le corps du Christ, Jésus étant la tête de ce corps, la pierre angulaire et nous tous des pierres vivantes de cette Église, eh bien le Christ fait notre unité. Il est là dans notre cœur et nous lui disons, Seigneur Jésus, tu es là, je suis là, me voici, tu m'aimes, je t'aime. Ô Seigneur, qu'il est bon d'être en ta présence. En cet instant, mon Seigneur et mon Dieu, par ces temps difficiles, je viens reconnaître que, effectivement, comme tu nous l'as dit, je ne peux rien faire sans toi. Bien longtemps, j'ai pensé pouvoir me débrouiller seul, mais je n'ai pu que constater, les uns après les autres, que tous les échafaudages de ma vie se sont écroulés. Je te demande pardon pour mon orgueil, pour mon amour-propre. Et puisque tu l'as promis, c'est en confiance qu'en ton nom précieux Jésus, je viens demander à notre Père du ciel de faire descendre sur moi le Saint-Esprit. J'ai tellement besoin de lui pour qu'il me libère de moi-même et qu'il m'ouvre toute grande la porte de la liberté des enfants de Dieu. Oh oui, viens Saint-Esprit. Viens par la puissante intercession des cœurs unis du Père et du Fils, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, et de toute la communion des saints et saints anges et archanges du ciel. Amen. Mes amis, nous savons qu'il suffit d'avoir été ébloui, ne fût-ce que le temps d'un éclair par la beauté resplendissante de l'être divin. Pour prendre conscience de notre laideur, de nos ténèbres, de l'absurdité de notre errance dans une vie vouée à la mort. Cette grâce est le premier pas sur le chemin de la conversion qui aboutit à la sainteté sous la conduite du bien-aimé. Hélas, les hommes sont trop affairés à courir après le néant des créatures pour entendre celui qui frappe à la porte de leur cœur, en vue d'y faire sa demeure. Oui, mes amis, attention, au lieu où l'on observe un parfait consensus, où l'on s'applaudit les uns les autres, où l'on s'entoure de privilèges, un chrétien ne saurait s'accommoder de cela. Ô Saint-Esprit, assiste-moi et fais de moi un disciple authentique du Christ qui n'hésite pas dans la charité à payer de sa personne là où le témoignage évangélique l'exige.
Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Antoine de Saint-Exupéry.
Cette émission voudrait vous proposer une alternative à cette course folle qu'est devenue la vie aujourd'hui, vie si souvent oppressante et privée d'espérance. Avec le soutien du frère Jean-François de Louvencourt, nous allons pénétrer l'expérience vécue par les pastoureaux de Fatima, qui est à la portée de tous. Il y a cependant une condition. Il faut que s'établisse un réel lien d'amitié entre les auditeurs et ses enfants. Alors, pourquoi ne pas suivre nous-mêmes avec François et Jacinthe ce chemin d'émerveillement et de gratitude? Pourquoi ne pas nous mettre, comme eux, à cette école de vie?
Dans sa première intention de prière pour 2022, le pape François pose deux questions directes et incisives. Comment se peut-il aujourd'hui que tant de communautés religieuses souffrent de discrimination ou de persécution? Comment pouvons-nous permettre, dans une société si civilisée, que des personnes soient persécutées en raison du seul fait qu'elles professent publiquement leur foi? En effet, selon le rapport mondial sur la liberté religieuse, publié par l'ACN en avril 21, la liberté religieuse est violée dans un tiers des pays du monde, où vivent près de 5,2 milliards de personnes. Le même rapport indique que plus de 646 millions de chrétiens vivent dans des pays où la liberté religieuse n'est pas respectée. La figure emblématique du Saint-Père. Des persécutions pires qu'au 1er siècle.
À lire les sources anciennes se référant aux grandes persécutions déclenchées par les empereurs romains, dès les années 60 sous Néron et jusqu'au 4e siècle, sous Dioclétien notamment, on reste stupéfait devant l'acharnement des bourreaux sur les chrétiens et les atrocités perpétrées contre ceux-ci. Pour retrouver pareille persécution, aussi dramatique en étendue et en cruauté, il faut attendre la période qui va de 1917 à aujourd'hui, et même des persécutions encore plus effroyables, comme a insisté le pape François.
Je veux être clair. Je suis convaincu que les persécutions qui frappent aujourd'hui les chrétiens sont plus fortes que lors des premiers siècles de l'Église. Il y a aujourd'hui plus de chrétiens martyrs qu'à cette époque, et ce n'est pas une invention, les chiffres le prouvent.
Oui, plus effroyable, à la fois en nombre, puisque les victimes se chiffrent par millions, ou plutôt par dizaines de millions, pour ne pas dire davantage, en étendue, puisque toutes les parties du monde sont d'autant plus concernées, qu'il faut aussi tenir compte des persécutions sournoises qui ne disent pas leur nom, et en atrocités malheureusement plus insoutenables les unes que les autres.
Mais pourquoi évoquer précisément l'année 1917? Parce que c'est l'année où Notre-Dame annonce que surviendront des persécutions contre l'Église, expression qu'elle prononce même par deux fois. Cette terrible annonce, faite le 13 juillet de cette année-là, est aussitôt confirmée par une vision affreusement angoissante accordée au petit berger. Nous avons vu, dans une lumière immense qui est Dieu, divers évêques, prêtres, religieux et religieuses, montés sur une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande croix en tronc brut, comme s'ils étaient en chêne liège avec leurs écorces. Et voici que, tués par des soldats, moururent les uns après les autres les évêques, les prêtres, les religieux et les religieuses, et divers laïcs, hommes et femmes de classes et de catégories sociales différentes.
En ce même 13 juillet, Notre-Dame procède à une autre annonce, elle aussi combien douloureuse et de portée mondiale, concernant cette fois la personne la plus emblématique qui soit, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Pour confirmer cette sombre perspective, la même vision montre alors cette scène incroyable que jamais personne n'aurait osé imaginer. Le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblant d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches.
Nous savons aujourd'hui que les prédications de Notre-Dame ont commencé à se réaliser en Russie avec la brutale et sanglante révolution d'octobre 1917 pour se poursuivre dans des contextes fort dissemblables, mais non moins terrorisants et destructeurs, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux exactions et massacres sans nombre et sans pitié qui se déroulent avec les moyens actuels de communication quasiment sous nos yeux. Le cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, a même avancé ce chiffre exorbitant qui ne cesse pourtant de croître d'une année à l'autre. Le nombre de chrétiens persécutés dans le monde oscille entre 100 et 150 millions d'âmes. Ce nombre, en hausse constante, fait du christianisme la religion la plus persécutée au monde. Quant au Saint-Père, qui aura beaucoup à souffrir, combien de fois n'a-t-il pas enduré plusieurs coups, que ce soit avec une arme à feu, une autre arme ou des flèches?
Pensons à Paul VI. À peine arrivé à Manille, aux Philippines, le 27 novembre 1971, il reçoit un violent coup de crisse, un poignard à lame sinueuse en direction du cœur. Tandis que les agents de sécurité neutralisent aussitôt l'agresseur, le pape est soigné pour une hémorragie heureusement vite enrayée. Mais vive a été l'émotion ce jour-là. Et que dire de Saint Jean-Paul II, lui qui a subi plus d'une dizaine de tentatives d'assassinat? L'une d'elles a même eu lieu à Fatima, devant la basilique de Notre-Dame du Rosaire, le 13 mai 1982. Mais la plus tragique de toutes reste celle du 13 mai 1981 sur la place Saint-Pierre à Rome. Cet attentat sanglant contre le doux Christ sur la terre a même été perçu comme le point culminant du XXe siècle. Ou encore, pour le dire autrement, ce 13 mai 1981 est une date qui appartient désormais à l'histoire de toute l'humanité, à l'histoire géopolitique, à l'histoire de l'Église. Une date qui appartient à l'histoire de l'insondable. Et les flèches, décochées avec perfidie et sans ménagement contre Benoît XVI, pour ne pas citer les papes précédents, elles l'ont cruellement fait souffrir, au point que le directeur de l'Osservatore Romano, lui-même exaspéré, s'est vu amené à réagir avec une fermeté inaccoutumée en disant notamment, comme s'il pensait à la vision du 13 juillet 1917, « Nous sommes dans une campagne de dénigrement, on n'en finit plus de tirer sur Benoît XVI ».
Son successeur n'est pas davantage à l'abri de ses flèches pernicieuses. Une mode se répand, partagée dans divers milieux catholiques. Tout ce que dit, tout ce que fait le pape François est suspecté, sujet à critique, à controverse. Il y a un anglicisme pour désigner cette forme de dénigrement systématique, le bashing. Pour avoir une vue circonstanciée de ces incessants dénigrements, il ne faut pas moins que tout un livre, et ce livre existe, dont le titre à lui seul fait frémir, « François parmi les loups ». N'en rapportons que ces deux brefs extraits. François a conscience qu'autour de lui, le terrain est miné. Ses opposants sont tenaces et leur agressivité se traduit en coulisses par une vaste campagne de délégitimation. Mais en juillet 1917, personne ne sait rien de ces souffrances à venir du Saint-Père, ni des persécutions qui vont se déchaîner, ni des épouvantables tragédies qui s'apprêtent à déferler sur le monde. Seuls nos petits bergers en ont connaissance, un secret qu'ils gardent avec soin, dont le contenu les afflige et les tourmente continuellement, mais qu'ils assument dans la prière avec courage et fidélité. Et voilà que leur affliction et leur tourment continuel s'accroissent encore avec cette nouvelle vision dont Jacinthe est gratifiée et qu'elle communique aussitôt à sa cousine et à son frère.
Je ne sais pas comment cela s'est fait. J'ai vu le Saint-Père dans une très grande maison, à genoux, devant une table, la tête entre les mains et pleurant. Au dehors, il y avait beaucoup de gens. Certains lui jetaient des pierres, d'autres le maudissaient et lui disaient plein de vilaines paroles. Pauvre Saint-Père, nous devons beaucoup prier pour lui.
Comme les petits bergers ont souffert de voir le Saint-Père ainsi maltraité, comme ils ont souffert à la suite de la vision du 13 juillet de le voir exposé aux plus de violences, et comme ils ont souffert d'être eux-mêmes maltraités et menacés de mort. Car en plus de les acculer à se dédire et à se trahir, on ne se prive pas de les décrier et de les menacer de mort, une mort cruelle dont ils acceptent pleinement la perspective imminente, au point qu'il est légitime de se poser la question : peut-on voir en eux des martyrs ? Monseigneur Cosme Douamaral répond sans hésiter. François et Jacinthe peuvent être considérés comme martyrs parce qu'ils ont souffert volontairement la mort par anticipation en leur cœur, parce qu'ils étaient parfaitement convaincus qu'on allait les tuer et parce qu'ils étaient fermement décidés à mourir. Ils ont accepté de mourir pour une raison surnaturelle, la fidélité au message reçu, message totalement en accord avec le dépôt de la foi et le magistère de l'Église. Ils sont morts en leur cœur dans une attitude de foi explicite à cause d'une vérité révélée, l'existence du ciel.
Oui, à défaut du martyr corporel, il est certain qu'ils sont morts en leur cœur, selon les mots de Monseigneur Cosme Douamaral, cités à l'instant, ou si l'on préfère, ils ont connu le martyr du cœur, comme l'appelle Saint Bernard. Un martyr tout aussi véritable que le martyr corporel, à l'instar de celui de Notre-Dame qui n'a pas connu le martyr physique, mais à qui l'abbé de Clairvaux s'adresse en ces termes. La violence de la douleur qui a transpercé le cœur de la Vierge Marie lorsqu'elle était auprès de la croix où agonisait son Fils a tellement pénétré ton âme qu'avec raison nous te proclamons plus que martyr, puisqu'en toi la souffrance corporelle s'est vue assurément dépassée par la souffrance de compassion. Cela est si vrai que les litanies de Lorette comportent l'invocation « Reine des martyrs ».
Par leur martyr du cœur, autre que celui de Notre-Dame, mais non moins réel, François et Jacinthe n'ont pas seulement été porteurs de la terrible annonce des innombrables tragédies de notre temps, mais leur souffrance devant les futurs événements affreusement redoutables pour le monde et leur totale acceptation du martyr pour eux-mêmes sont le sceau le plus convaincant de l'authenticité du dramatique message céleste qu'ils nous ont transmis.
Un amour précurseur et exemplaire.
Regardons nos petits bergers. Eux aussi priaient pour les prêtres. C'était même d'autant plus méritoire de leur part que leur rapport avec eux était plutôt tumultueux. Comment donc tumultueux? Pour comprendre, il faut savoir que le principal prêtre qu'ils connaissent, le curé de Fatima, est loin de prendre leur défense et se demande même si les apparitions ne sont pas une manœuvre ou un piège du démon. Les autres prêtres, à quelques rares exceptions près, ne pensent pas autrement. Tel d'entre eux étant même persuadé que ces apparitions finiront par un grand fiasco. Pareil comportement à leur égard les afflige beaucoup, jusqu'à être une torture pour leurs âmes délicates. Sans parler des interrogatoires longs et insistants, souvent peu amènes et insidieux.
Les prêtres, surtout eux, nous interrogeaient, nous réinterrogeaient et recommençaient à nous interroger. Lorsque nous nous trouvions en présence d'un prêtre, nous nous disposions à offrir à Dieu un de nos plus grands sacrifices. Jamais cependant ils n'éprouvèrent le moindre ressentiment envers eux. En voici deux témoignages. François considérait toujours les prêtres avec le plus grand respect, que ce soit en leur présence ou en leur absence. Jacinthe éprouvait un grand amour pour les prêtres et même pour Monsieur le curé, malgré les interrogatoires serrés et sévères auxquels il la soumettait. Jamais elle ne se plaignit de sa façon de procéder. Et si elle avait à donner un conseil à leur sujet, elle disait avec une tendresse touchant bien à elle, « Priez beaucoup pour les prêtres. »
Et le pape? Comme la télévision n'existait pas encore et que personne ne s'était préoccupé de leur parler du Saint-Père, ils ignoraient tout de lui. Jusqu'au jour où deux prêtres, venus s'enquérir avec bienveillance des événements, leur recommandent de prier pour lui. Jacinthe souhaite alors savoir qui est le Saint-Père. Les explications chaleureuses qu'ils reçoivent de ces deux prêtres, venant s'ajouter aux paroles et à la vision du 13 juillet, les impressionnent tellement qu'ils décident d'accorder une place prépondérante au vicaire du Christ sur la terre. C'est Jacinthe, la plus passionnée et la plus vive du trio, qui passe la première à l'action. Elle ressentit tant d'amour pour le Saint-Père qu'elle ajoutait chaque fois qu'elle offrait des sacrifices à Jésus et pour le Saint-Père. À la fin du chapelet, elle disait toujours trois Ave Maria pour le Saint-Père.
Sa prière redouble d'intensité lorsqu'elle songe aux multiples et continuelles tribulations qui s'abattent sur lui, que ce soit de façon sournoise ou avec effronterie. Elle avait beaucoup de peine pour les souffrances et les persécutions que le Saint-Père devait supporter, à tel point qu'il lui arrivait parfois d'en pleurer. Comme elle a l'intuition que les critiques, reproches et dénigrements ne cesseraient malheureusement pas, elle continue aujourd'hui d'intercéder en sa faveur ainsi qu'elle l'a promis. Au ciel, je prierai beaucoup pour le Saint-Père. Un fait remarquable est ici à noter. Tandis qu'un jour elle récite les prières de l'ange au cabceau, la tête jusqu'à toucher le sol, soudain elle se redresse et demande à Lucie « Tu ne vois pas le Saint-Père dans une église, en prière devant le cœur immaculé de Marie, et tant de monde qui prie avec lui ?»
Comment ne pas tenir cette vision pour une admirable anticipation prophétique de la consécration du monde au cœur immaculé de Marie par le Saint-Père dans la basilique vaticane? La conclusion s'impose d'elle-même, tout à l'honneur d'une enfant de 8 à 9 ans, et parfaitement exprimée par ceux qui l'ont côtoyée. Tel ce témoin, qui a bien saisi que son amour pour le pape avait de précurseur et de magnifiquement exemplaire. Elle avait pour le Saint-Père une dévotion qu'on peut dire extraordinaire, inhabituelle en ce temps-là et à cet âge-là. Citons encore cette parole de Jacinthe, sortie tout droit de son cœur et qui montre à quel point elle est émerveillée par la personne du Saint-Père ainsi que par son lien tout spécial avec la Vierge Marie. Quand le Saint-Père mourra, il ira au ciel parce que Notre-Dame l'aime énormément. Moi aussi, je l'aime beaucoup et je prie beaucoup pour lui.
Et François, lui aussi avait pris l'habitude de prier pour le Saint-Père, une prière qui se faisait encore plus pressante lorsqu'il pensait aux épreuves endurées par le pape et dont lui-même ressentait une grande peine. De plus, si l'occasion se présentait pour lui de parler du pape aux autres, il leur recommandait avec insistance de prier à son intention parce que, leur disait-il, il en avait grand besoin. Si François n'a pas bénéficié d'une vision du pape en prière comme Jacinthe, il n'en demeure pas moins extrêmement sensible à la lumière, surtout la lumière surnaturelle. Ainsi, ayant entendu dire que le Saint-Père était le vibrant représentant du Christ sur la terre, demanda s'il était lumière comme Dieu. Quelle étonnante réflexion qui ne peut venir que d'un contemplatif habitué à puiser ses plus belles intuitions dans la profondeur de sa prière et à s'émerveiller devant tout ce qui est lumière. Comme pour Jacinthe, les témoignages concernant François sont là, qui représentent autant d'échos indéniables de son amour pour le pape. Un amour alors inaccoutumé en premier lieu dans son entourage. Un amour aussi vrai et fidèle qu'exemplaire, les deux témoignages suivants en font foi.
François avait beaucoup d'affection envers le Saint-Père, pour qui il priait très souvent. Il nourrissait pour le Saint-Père un grand amour, beaucoup de respect et de vénération. Parmi les gens qui affluent de plus en plus nombreux à la Cova d'Airia, il y en a de toutes les sortes. Des curieux, des sceptiques, des railleurs, des détracteurs, mais surtout des pèlerins. Les plus divers qu'on puisse imaginer, à l'exception d'un seul, qui n'est jamais venu, au grand regret de Jacinthe, qui caresse le rêve de voir le pape à qui il arrive de s'exclamer. Il vient tant de gens ici, mais jamais le Saint-Père. J'aimerais tellement le voir. Même souhait de la part de François. Souhait d'autant plus notable qu'il est habituellement peu loquace. C'est Emmanuel lui-même qui en témoigne. Je l'ai souvent entendu dire qu'il aurait beaucoup aimé voir le pape. Un souhait irréaliste en ces années-là, mais tellement symptomatique de leur grand amour à tous les deux. Or, ce grand amour pour le pape, qu'il s'agisse de François ou de Jacinthe, représente, dira le cardinal José da Cruz Policarpo, un élément constitutif du message de Fatima. Mieux encore, ce grand amour pour le pape, ajoute le même cardinal, est la sublime expression de l'amour ecclésial. Tel est donc leur sens aigu de l'Église qui s'exprime fondamentalement par leur instant de prière pour les prêtres et de façon ultime, pour ne pas dire sublime, par leur amour émerveillé pour le Saint-Père. Un amour réciproque et tout aussi exemplaire.
Les petits bergers aiment donc beaucoup le Saint-Père d'un amour tendre et fidèle, autant que prophétique et émouvant. Il faut s'empresser d'ajouter que le Saint-Père leur témoigne un même amour qui va s'avérer d'une fidélité étonnamment exemplaire à travers le temps. Et cependant, quelle disproportion entre le souverain pontife, figure emblématique entre toutes qui plus est de nos renommées planétaires, et d'autre part, ses enfants, humbles petits bergers d'un hameau alors inconnu de tous. Mais les faits sont là, venant des papes eux-mêmes, les faits, c'est-à-dire des déclarations publiques et des gestes extrêmement forts. On n'en finirait pas de rapporter tout ce qu'ont accompli les papes en faveur de François et de Jacinthe, à commencer par les déclarations de Saint Jean-Paul II. En voici quelques-unes qui manifestent son attachement à ses deux enfants et mettent en évidence la portée universelle de leur vie et de leur message. Ainsi, le 13 mai 2000, jour solennel de leur béatification, le pape déclare avec cette joyeuse assurance qui le caractérise et comme prenant à témoin l'immense foule qui l'écoute attentivement.
En se laissant conduire avec une totale générosité par une souveraine aussi bonne, Jacinthe et François ont atteint en peu de temps les sommets de la perfection. Comme on le voit, le souverain pontife ne se contente pas de dire qu'ils ont atteint la perfection, ce qui serait déjà les magnifier grandement, mais les sommets de la perfection, une véritable canonisation avant l'heure. C'est au cours de cette même homélie que Saint Jean-Paul II vient sceller de son autorité cette autre affirmation tout aussi audacieuse. Le rayonnement qui émane de leur sainteté n'est pas seulement local ou régional, mais mondial. Le pape déclare en effet qu'ils sont deux petites flammes que Dieu a allumées pour éclairer l'humanité en ces heures d'obscurité et d'inquiétude. Sa toute dernière phrase et même le tout dernier mot de son homélie reviennent sur cette dimension universelle. Que leur message reste toujours vivant pour illuminer le chemin de l'humanité.
10 ans plus tard, Benoît XVI insiste à son tour sur la prodigieuse dimension de leur rayonnement, lorsqu'il nous invite à voir en eux des modèles à suivre pour devenir nous-mêmes des bâtisseurs de la civilisation à venir. Les petits bergers sont un exemple et nous stimulent, eux qui ont fait de leur vie une offrande à Dieu et l'ont partagée avec les autres par amour de Dieu. Sur sa lancée, le Saint-Père continue avec des mots dont la portée exceptionnelle élève ses enfants au niveau des plus grands saints. Notre-Dame les a aidés à ouvrir leur cœur à l'universalité de l'amour. La bienheureuse Jacinthe, notamment, se montrait infatigable dans le partage avec les pauvres et dans le sacrifice pour la conversion des pécheurs. Ce n'est qu'avec cet amour de fraternité et de partage que nous réussirons à bâtir la civilisation de l'amour et de la paix.
Le pape François est tout aussi convaincu de leur rayonnement mondial puisqu'il déclare, dès le premier jour de son pèlerinage à Fatima, le 12 mai 2017, Reine du rosaire de Fatima, fais-nous suivre l'exemple des bienheureux François et Jacinthe et de tous ceux qui témoignent du message de l'Évangile. Nous parcourons ainsi toutes les routes, nous serons pèlerins sur tous les chemins, nous abattrons tous les murs et nous vaincrons toutes les frontières, en allant vers toutes les périphéries, en y révélant la justice et la paix de Dieu. Et ainsi nous serons, comme toi, une image de la colonne lumineuse qui éclaire les chemins du monde, en montrant à tous que Dieu existe, que Dieu est présent, que Dieu habite au milieu de son peuple, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Comment ne pas se demander si ce rôle déployé à si grande échelle n'est pas excessif, pour ne pas dire surfait ou illusoire? La réponse, c'est le pape François lui-même qui nous l'apporte. Ceux qui font avancer la vie de l'Église, ce sont les saints. Et les saints, tels que saint François et sainte Jacinthe, ne font pas seulement avancer la vie de l'Église, mais aussi la vie du monde, la vie de l'humanité.
Étant donné leur insigne degré de sainteté, l'ampleur de leur rayonnement et leur intense amour pour le Saint-Père, on comprend que des papes comme Saint Jean-Paul II et Benoît XVI aient tenu à remercier chaleureusement et publiquement ces deux enfants. C'est ainsi que le premier n'hésite pas à déclarer haut et fort devant tous dans son homélie du 13 mai 2000 « Je dis ma reconnaissance à la bienheureuse Jacinthe pour les sacrifices et les prières qu'elle a faits pour le Saint-Père, lui qu'elle a vu tant souffrir. » Et comme François a lui aussi beaucoup prié, supplié et intercédé pour le Saint-Père, la gratitude de Saint Jean-Paul II s'adresse tout autant au petit berger d'Aljustrel. Quant à Benoît XVI, en s'adressant directement à Notre-Dame à l'endroit même où elle est apparue, il lui dit en mai 2010 « Au vu et au su de tous, je rends grâce, Mère bien-aimée, pour les prières et les sacrifices que les petits bergers de Fatima faisaient pour le pape, guidés par les sentiments que tu leur avais inspirés au cours des apparitions. »
À ces paroles, d'autant plus remarquables qu'elles ont été relayées par les médias du monde entier, les papes joignent des actes encore jamais posés de leur part en faveur d'enfants aussi jeunes. Rappelons les plus notables, qui nous émerveillent encore plus aujourd'hui avec le recul du temps. On se souvient du grand regret de Jacinthe de n'avoir jamais vu le Saint-Père à la Cova d'Airia, alors que tant de gens y accourent. Un regret non moins vif de la part de François. Tous deux sont ainsi les premiers à souhaiter ardemment la venue du Saint-Père, là même où Notre-Dame leur apparaît. Un souhait alors totalement utopique, puisqu'en ces années-là, les papes ne se déplaçaient pas, encore moins à l'étranger. Un souhait irréalisable pour l'homme, mais non pas pour Dieu, qui se plaît à accomplir les plus beaux rêves de ses enfants, surtout de ses enfants au cœur pur et humble.
Dieu va donc disposer les événements de telle sorte que leurs rêves se réalisent, et même au-delà de leurs espérances, puisque le Saint-Père sera chaque fois accompagné d'une foule de pèlerins comme ils n'en ont jamais vu. Quatre souverains pontifes sont ainsi venus à Fatima, le quatrième ayant même envoyé son secrétaire d'État le précurseur. Ce qui donne les six visites pontificales suivantes, chacune au jour anniversaire de la première apparition de Notre-Dame. Le 13 mai 1967, Paul VI à Fatima pour le 50e anniversaire des apparitions et bénédiction de Sœur Lucie par le pape.
Le 13 mai 1982, Saint Jean-Paul II à Fatima, un an jour pour jour après l'attentat à Rome et consécration du monde à Notre-Dame.
Le 13 mai 1991, Saint Jean-Paul II à Fatima, 10 ans après ce même attentat à Rome, Fatima, cœur marial de l'Église.
Le 13 mai 2000, Saint Jean-Paul II à Fatima, au cœur du grand jubilé de l'an 2000, pour la béatification de François et Jacinthe.
Le 13 mai 2010, Benoît XVI à Fatima pour le 10e anniversaire de leur béatification. Pas d'autre lieu dans le monde comme Fatima.
13 mai 2017, le pape François à Fatima pour le 100e anniversaire des apparitions et la canonisation de François et Jacinthe. Et on pourrait dire un bonus, le 5 août 2023, une 7e visite, celle du pape François à Fatima, à l'occasion des JMJ au Portugal, pour la dévotion réparatrice des premiers samedis. Le préfet de la Congrégation pour la cause des saints, le cardinal José Sarraja Martins, est lui-même impressionné quand, le lendemain de la béatification de François et Jacinthe, il revoit le Saint-Père à Rome. À son retour de Fatima, le pape était très heureux d'avoir élevé ses enfants à l'honneur des autels. Je n'oublierai jamais son sourire, il était vraiment content. Le même cardinal, qui connaissait très bien Saint Jean-Paul II et le rencontrait souvent, précise également que les petits bergers figurait parmi les saints préférés et qu'il occupait une place très spéciale dans son cœur. Dès lors, on comprend pourquoi le pape a tant fait pour eux, comme il ne s'est jamais, peut-être jamais, autant engagé pour d'autres, surtout envers des enfants. Si Benoît XVI décide d'aller lui aussi à Fatima, c'est pour un motif bien précis qu'il a lui-même expliqué à la multitude des fidèles réunis place Saint-Pierre le dimanche précédent son départ pour le Portugal. Le but principal de mon voyage sera Fatima, à l'occasion du 10e anniversaire de la béatification des deux petits bergers, Jacinthe et François.
Autres gestes qui ne laisseront jamais de nous émerveiller. Chaque fois que les papes Saint Jean-Paul II, Benoît XVI et François se rendent à Fatima, ils vont prier sur les tombes des petits bergers. Et ils ne le font pas seulement pour suivre le programme officiel, qui parfois n'a rien prévu de tel, mais pour une raison d'un ordre tout différent, un réel besoin du cœur. Cet intime besoin du cœur qui les pousse à donner à leur démarche une ampleur à la fois toute personnelle et inaccoutumée. Pensons à la première visite de Saint Jean-Paul II sur leur tombe le 13 mai 1982. L'Eucharistie terminée, il est prévu qu'ils se rendent au repas où il est attendu, mais non, ils diffèrent ce rendez-vous pour un autre, à ses yeux prioritaire, aller prier sur leur tombe. Et il n'y va pas incognito, mais sous les applaudissements de la foule d'un million de pèlerins et en tant que souverain pontife, c'est-à-dire revêtu de ses vêtements pontificaux, la mitre sur la tête et la crosse à la main. C'est ainsi qu'il s'agenouille auprès de Jacinthe et de François et qu'il les prie, manifestement très ému, hommage incroyable du pasteur suprême de l'Église en faveur de ses deux enfants qui n'étaient pas encore béatifiés ni même déclarés vénérables.
Saint Jean-Paul II renouvelle ce geste le 13 mai 1992 avec des variantes puisqu'il va les prier sur leur tombe au cœur de la nuit, aussitôt la procession au flambeau. Et une troisième fois, le 13 mai 2000, lorsque, après l'Eucharistie, et toujours revêtu de sa chasuble ensoleillée, il entre dans la basilique du Rosaire pour prier les deux nouveaux bienheureux. Benoît XVI tiendra lui aussi, au terme de la solennelle Eucharistie qu'il préside le 13 mai 2010 sur l'esplanade du sanctuaire, à venir s'agenouiller et prier sur leur tombe. Et lui aussi, avec ses vêtements pontificaux, et la mitre sur la tête, cela pour rendre sa démarche encore plus marquante au regard de l'Église universelle qui suit chacun de ses gestes et du monde qu'il observe à travers les médias.
Et le pape François, rappelons d'abord ce qu'il a fait lors de la grande journée mariale du 13 octobre 2013, célébrée avec splendeur au terme de l'année de la foi. Il a invité à Rome la statue originale de Notre-Dame de Fatima, celle qui très rarement quitte la Capilina. C'est à cette occasion que sœur Angela, la postulatrice de la cause de canonisation de François et Jacinthe, offre au Saint-Père des reliques des deux enfants. Le pape François les prend en main, les regarde attentivement et les baise avec respect et tendresse. Un baiser spontané et affectueux qui en dit long sur ce qu'il pense à l'intime de lui-même. Un baiser porteur des plus belles promesses.
De fait, le 13 mai 2017, tandis qu'une véritable marée humaine de pèlerins venus de toutes les parties du monde se prépare à la messe de canonisation des deux enfants, le pape François entre dans la basilique de Notre-Dame du Rosaire. Là, il se rend auprès des tombes de François et de Jacinthe pour s'y recueillir et y prier. Une ardente et silencieuse prière, comme celle des papes qui l'ont précédée, et comme celle des nombreux pèlerins qui vont venir, eux aussi, sitôt la messe terminée, pour prier sur la tombe des deux nouveaux saints. Des pèlerins en si grand nombre qu'une longue file d'attente se forme à l'intérieur de la basilique et jusqu'à la colonnade nord du sanctuaire. Et tous, d'un même élan, n'ont qu'une même prière, Saint François, Saint Jacinthe, priez pour nous. Vivre dans un émerveillement perpétuel, cet émerveillement qui est la plus belle forme de l'amour, voilà l'idéal qu'on cherchait à atteindre sur la terre nos petits bergers et ceux qu'ils vivent désormais dans le ciel pour l'éternité.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui.
Rendez-vous pour la suite de cette émission.
La plus sublime des créatures.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était notre émission L'émerveillement, source de sainteté. Vous étiez avec Christine et Bernard Storm. Ce mois-ci, il était question de la figure emblématique du Saint-Père. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.